avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture des Jeux paralympiques de Rio, nous nous interrogeons qui sont les héros du handisport ? Comment fonctionne le dépassement de soi avec un handicap ? Et puis, pour quelle reconnaissance du public ? L'occasion de poser aussi en direct toutes vos questions à nos invités sportifs et handicapés. Je vous les présente, ils sont là, dans le studio, on a beaucoup de chance. Clavel Caillitaré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-champion paralympique en 2004 sur le 100 mètres et le 200 mètres. On a trois athlètes de l'athlétisme, je vous le dis tout de suite. Merci d'être avec nous dans le studio de RFI.
Merci à vous.
Vous avez perdu l'usage partiel d'une jambe pendant le génocide au Rwanda. Vous n'êtes pas équipé de prothèse, on en reparlera d'ailleurs, pour la pratique du handisport. Christophe Carayon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médaille d'or aux Jeux paralympiques de Barcelone en 1992, athlétisme également. Vous êtes déficient visuel et aujourd'hui, vous êtes entre guillemets un vieil athlète, si on peut dire.
On peut le dire.
Retraité du sport, pas tout à fait. Vous êtes directeur technique national adjoint à la Fédération Handisport. Évidemment, vous avez connu le handisport en 92. C'était encore quand même assez confidentiel, non ?
On était plus proche des valeurs de Pierre de Coubertin. C'était confidentiel au niveau de la presse et on était complètement amateurs.
Oui.
On faisait nos 40 heures par semaine et on s'entraînait le soir, le week-end, pendant les vacances, pendant les congés payés.
Même si le handisport existe depuis près de 50 ans, plus de 50 ans.
Plus de 50 ans, puisque officiellement c'était
ans,
en 1948 que la première compétition internationale a eu lieu une semaine après les fameux Jeux de Londres. Et 48, c'est pas une date anodine, puisque c'était juste après la Seconde Guerre mondiale.
Serge Ornem, vous êtes également avec nous, également champion en athlétisme. Vous êtes amputé d'un bras. Et alors vous avez participé à des Jeux Olympiques. Vous avez une longue carrière de sportif. Vous avez été demi-finaliste aux Jeux Paralympiques de Sydney. Vous avez été également aux Jeux d'Athènes.
Et aux Jeux de Pékin.
Oui. Et puis
au championnat du monde, j'ai été champion d'Europe en 2006 sur le 100, le 200 et le 4x100.
Maître.
Maître, oui.
On sera également en ligne avec Gérard Masson, président de la Fédération française handisport, qui est en train d'atterrir à Rio, et peut-être Hubert Ripoll, qui est psychologue du sport. Le handisport, pour vous, les voisins, est-il suffisamment valorisé en tant que performance sportive ? On attend vos appels si vous avez envie et si également vous êtes vous-même, par exemple, en situation de handicap et que vous pratiquez un sport. Vous pouvez questionner nos amis athlètes au 33 1 84 22 71 71. On peut dire aujourd'hui bienvenue à l'école du courage chez les 7 milliards de voisins. Mais tout de suite, écoutez le témoignage de cette jeune femme. Vous la connaissez sûrement parce que vous vous connaissez tous entre vous, hein, j'ai l'impression. Il y a une bonne ambiance. Elle jouera vendredi prochain son premier match à Rio pour les Jeux paralympiques. Emmanuelle Meursch, 26 ans, 26e mondiale et l'une des meilleures joueuses françaises de tennis en fauteuil depuis qu'elle a perdu l'usage de ses jambes brutalement il y a 8 ans. Charlie Dupiot l'a rencontrée sur un court pour l'un de ses derniers entraînements avant le départ dans son club d'entraînement en région parisienne, avec deux moniteurs valides. Les fauteuils roulants sifflent et filent à toute vitesse sur le terrain.
Bien engagé là. Trouve de l'amplitude dans tes coudes. Trouve du relâchement. Super bien joué, Emmanuel. Magnifique.
Bah là, on s'entraîne en double avec Charlotte Famin, qui est la numéro 1 française et qui va être ma partenaire de double aux Jeux paralympiques. Le score est identique, le terrain est identique, on utilise les mêmes balles, le filet est à la même hauteur. La principale différence, c'est qu'on a le droit à deux rebonds. Donc on peut prendre la balle de volée après un rebond ou après deux rebonds. Une autre différence plus technique, je dirais, c'est que nous, on essaie d'être tout le temps en mouvement, même quand on frappe la balle, alors qu'un joueur debout va plutôt essayer d'être à l'arrêt quand il frappe pour avoir plus de stabilité. Nous, on essaye d'être tout le temps en mouvement pour éviter de fournir trop d'efforts au démarrage. On est attaché au fauteuil, donc sanglé. Moi, j'ai même une espèce de barre de fer qui me tient les genoux. Si notre corps bouge dans le fauteuil, on perd de la stabilité, on perd de la puissance, de la précision. Donc il faut vraiment faire corps avec le fauteuil pour continuer à se déplacer.
Et c'est vrai qu'on vous voit mettre beaucoup de force en permanence. Vous avez la raquette dans une main et les deux bras sur le fauteuil pour le faire avancer.
Oui, c'est ça. Moi, je suis droitière, donc avec la main droite, je tiens et la raquette et la main courante du fauteuil. Au début, on se coince les doigts dans les rayons, la raquette dérape, enfin, on se fait des ampoules. Mais avec l'entraînement, c'est quelque chose qui devient naturel finalement.
Comment vous êtes venue à pratiquer le tennis en fauteuil ?
J'ai eu un accident de snowboard en 2008. Donc j'étais dans un snowpark et j'ai pris une bosse et je suis retombée sur le dos. Donc je me suis cassée la colonne vertébrale et je suis devenue paraplégique. J'étais au lycée, c'était en avril, donc c'était les vacances de Pâques. J'ai passé ensuite 8 mois à l'hôpital. Chaque mouvement devient un nouvel apprentissage en fait. Quand je suis assise sur une chaise ou dans un canapé, on n'a pas l'impression que je suis handicapée parce que mes jambes restent d'une taille normale. Enfin, il n'y a rien de difforme. Accepter mon corps comme ça, c'était facile parce que visuellement, c'était le même en fait. Et ensuite, j'ai cherché un sport que j'avais pas pratiqué avant mon accident pour pas avoir de comparaison, de frustration. Et le tennis, c'est quelque chose qui m'a permis de jouer avec des valides, avec des gens en fauteuil. Malheureusement, en France, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le tennis fauteuil qui font de la compétition. On est une vingtaine. Dès qu'une jeune arrive avec une envie de faire des tournois et un potentiel, bah, elle est vite attrapée et on lui dit rapidement bon, bah, tu vas faire quelques tournois à l'international, etc. Puis tout s'enchaîne, quoi. Aux Pays-Bas, c'est un peu le pays roi du tennis fauteuil. C'est vrai que les joueuses sont très très nombreuses, en Chine aussi. Ça reste un sport qui est assez récent, qui est arrivé dans les années 80 en France. En centre de rééducation, on ne nous en parle pas forcément. On nous parle plus des sports collectifs, ou de la natation, ou du tennis de table. Finalement, je me retrouve dans le haut niveau, qui est quelque chose que j'aurais jamais pu atteindre en valide. Je pense que c'est un tout. Le tennis, ça fait partie du rebond que j'ai eu après mon accident, comme mes études en ont fait partie.
Donc vous avez passé votre baccalauréat ?
J'ai passé mon baccalauréat dans le centre de rééducation en septembre. Et j'ai intégré une prépa Mathsup en janvier. J'ai passé les concours et j'ai intégré Centrale Paris.
C'est une école d'ingénieurs prestigieuse à Paris.
Oui, j'ai été diplômée en décembre 2015.
Et depuis, qu'est-ce que vous faites ?
Depuis, tennis à plein temps pour préparer les Jeux qui arrivent. C'est un peu moi qui ai trouvé mes sponsors privés. C'est moi qui ai trouvé mes entraîneurs physiques, les kinés. La fédération ne s'occupe pas forcément de nous trouver une équipe pour nous entraîner, pour nous soigner, etc. Donc c'est à nous de la constituer. Cette année, j'ai eu à peu près 45 000 euros de frais parce que j'ai fait une trentaine de tournois à l'étranger. Donc énormément de déplacements, d'hôtels, de frais d'inscription. La plupart du temps, quand on part en tournoi, c'est pas du tout rentable. On dépense plus que ce qu'on gagne. L'année a été vraiment très très intense en pression puisque avec les sponsors privés, avec toutes les personnes qui me suivaient, etc., ça aurait été tellement dur de leur annoncer que j'avais échoué dans mon projet et que je m'étais pas qualifiée. Il n'y a que 32 joueuses qui partent à Rio. Mondialement, on est 250 classées, je crois. La plupart de celles qui vont à Rio gagnent leur vie avec ça, évidemment.
Et vous ?
Moi, cette année, oui, j'ai gagné ma vie avec. Donc, je ne gagne pas des millions d'euros comme les valides, mais bon, on arrive à vivre quand même, quoi.
Vous gagnez combien, à peu près ?
À peu près le SMIC, je pense.
Donc, le salaire minimum, environ 1100 euros par mois.
Par rapport aux valides, ça reste ridicule.
Quel regret vous pouvez avoir aujourd'hui ?
Pas avoir joué au tennis en valide parce que ça m'aurait vraiment aidé à progresser encore plus vite. Et si j'avais commencé plus tôt, je serais probablement dans les meilleures joueuses de tennis en fauteuil. Donc j'aurais pu arriver plus haut, je pense. Je serais satisfaite le jour où je perdrai aucun match. Donc je vais continuer de m'entraîner, je pense 2 fois par semaine le soir, sur mon temps libre. Peut-être que je repartirai pour Tokyo 2020, j'en ai aucune idée. Les prochains Jeux paralympiques, je sais pas, honnêtement. Aujourd'hui, je vais participer aux Jeux paralympiques au Brésil. Je suis en train de préparer ma carrière professionnelle après les Jeux. Je viens de signer un contrat là, dans une entreprise de cosmétiques et je vais faire du marketing. Donc j'ai plein de projets en tête et je pense plus à ça qu'à mon handicap finalement.
Voilà, d'ici là, évidemment, on souhaite du succès à Emmanuelle Meursch qui jouera la compétition de tennis en simple à Rio, mais c'est surtout en double qu'elle espère décrocher une médaille et peut-être, qui sait, celle de bronze. Qu'est-ce que vous inspire le témoignage d'Emmanuelle ? Christophe Carayon, vous la connaissez ?
Oui, je la connais très peu parce que, comme elle disait, elle arrive vraiment en équipe de France déjà sur la pointe des pieds et elle s'est qualifiée grâce au double et c'était une année, ça s'est fait très tardivement. C'est très intéressant son message parce qu'on a entendu parler de rebond et c'est souvent ce qu'on entend dans les sportifs. Moi, quand j'étais athlète et puis même autour de cette table, je les connais bien. Et souvent, quand on lui demande ce qu'elle regrette, finalement, elle ne parle pas d'accident. Non. Elle parle de pas avoir fait du sport pour être meilleure encore aujourd'hui. Et elle se projette vraiment dans sa nouvelle vie sans avoir de regrets. Et c'est, je crois, le bon moteur, c'est de voir l'avenir et en acceptant ce que l'on est.
Clavel Cayitare.
Comme dit Christophe, c'est vrai que dès qu'on est dans le sport, on pense plus à la performance que le handicap, parce que le handicap passe derrière. Donc on va plus se concentrer sur ce qu'on doit faire et elle résume très bien.
Et à se battre, hein, parce qu'on voit bien quand même que c'est un parcours du combattant sur le plan financier, sur le plan technique, l'entraînement, etc.
Dans le handisport, on est obligé de se battre sur tous les domaines, que ce soit sur le handicap, que ce soit dans la performance ou financièrement aussi, qu'est-ce qu'elle disait. Et parce que parfois le matériel coûte cher. Hein. C'est bien sûr, nous on a choisi un sport où ça coûte beaucoup moins cher que le tennis de
la course.
Le tennis. Et encore, certains athlètes, ils sont très, qui sont appareillés, ça coûte ou qui sont en fauteuil, et le matériel coûte cher.
Le champion paralympique de tennis en fauteuil, Michael Jeremias, qui d'ailleurs est le porte-drapeau hein, là, de la délégation française, a joué avec un champion de tennis valide, dont j'ai oublié le nom, mais qui l'a mis lui aussi en fauteuil. Et le champion valide en fauteuil s'est fait écraser à plate couture, incapable de se positionner sur les balles. C'est bien la preuve que le handisport n'est pas un sous-sport, mais un sport différent. Est-ce que ça, c'est important comme idée à faire passer pour vous ou pas? Est-ce que ça vous est arrivé de mener des expériences comme ça avec des valides à qui vous avez créé un handicap pour leur faire comprendre quel était le niveau de votre performance sportive? Christophe Carayon,
souvent on les met en situation de handicap. Donc effectivement, moi sur des formations, je les ai bandés, je les ai fait courir avec moi, mais plus pour leur faire ressentir des sensations que pour qu'ils comprennent l'étendue du handicap, parce que le handicap, en fait, on le vit au jour le jour, à chaque heure, et même si on met quelqu'un en fauteuil pour qu'il ait quelques sensations à leur hache, il ne va pas avoir eu toute la journée, il n'aura pas poussé son fauteuil toute la journée, donc il sera finalement en forme au niveau de ses bras, il n'aura pas eu ses problèmes d'aller aux toilettes, parce que les gars en fauteuil peuvent avoir ce souci-là, il n'aura pas eu ses galères de monter dans une voiture, d'avoir un trottoir qu'il ne peut pas monter, puisque là, on parlait de fauteuil, ou quand on parle d'effizième visuel, de se balader dans la rue et puis d'avoir du mal à traverser une route parce qu'on ne voit pas le feu en face, il y a du bruit, donc on entame la circulation dans tous les sens, où on n'arrive pas à se diriger.
Ça, c'est pour la vie quotidienne, oui, mais pour la pratique d'un sport de haut niveau.
Et cette vie quotidienne, elle rejaillit sur le sport de haut niveau, parce que lorsqu'on arrive le soir, on a été stressé, on a été fatigué, et on va s'entraîner. Et donc, l'exemple de Michael Jeremias, évidemment, le sportif de haut niveau quel qu'il soit, même si c'est Djokovic, ne peut pas jouer. Elle l'expliquait très bien tout à l'heure notre collègue, c'est qu'elle a eu des ampoules au même au début. Elle avait du mal à manier son fauteuil tout en tenant une raquette, parce que quand vous tenez une raquette, il ne vous reste qu'une main pour manier un fauteuil. Si vous poussez que d'une main, le fauteuil ne va pas droit. Il faut se positionner et effectivement, ils n'ont pas les repères qu'a Michael. Et donc, c'est un sport différent. Je crois que vous avez raison, c'est...
Alors, vous êtes des athlètes, des sportifs de haut niveau. Néanmoins, vous n'êtes pas en fauteuil roulant. Vous avez d'autres types de handicaps. Est-ce que la souffrance physique, d'ailleurs qui fait partie de tous les parcours de sportifs en général, mais est-ce que, par exemple, pour vous, Serge Ornem, vous êtes amputé du bras gauche de naissance. Est-ce que cette souffrance physique, elle est plus importante, elle est plus compliquée à gérer pour le handisport?
Alors, je dirais que, étant donné que je suis né avec cet handicap, donc elle a été moins compliquée pour moi que pour une personne qui devient handicapée. Donc, il y a déjà ce premier point-là qu'il faut prendre en compte. Et puis, moi, j'ai la chance d'avoir un handicap qui me permet d'avoir entre guillemets, une vie normale. Donc, je me rappelle quand j'étais, quand je faisais du haut niveau, je pouvais rivaliser, enfin courir et rivaliser avec des athlètes valides. Donc,
jusqu'à un certain point.
Jusqu'à un certain parce point,
que,
bien sûr.
Parce que le manque du bras gauche, finalement, ça crée un déséquilibre. Comment ça fonctionne ? Expliquez-nous, voilà. Nous qui sommes voilà, des profanes j'allais, pour le
j'allais,
sport.
Voilà, j'allais y venir puisque pendant, durant ma carrière, j'ai été appareillé donc, pour la course et j'ai eu une prothèse. Donc cette prothèse, à quoi elle servait ? Tout simplement à m'équilibrer au départ, en start. Et aussi à pouvoir garder le buste droit, donc le buste droit en fin de course, puisque évidemment, en fin de course, on est un peu fatigué, quoi. Donc, du coup, on a plus tendance à osciller, on va dire, du tronc. Du buste et ce qui peut faire perdre du temps hein, sur la course. Donc cette prothèse justement me permettait d'être équilibré en fin de course.
Clavel Cayitaré, vous avez perdu l'usage partiel d'une jambe au Rwanda. Quand vous êtes arrivé en France, vous êtes arrivé enfant. Comment le sport est entré dans votre vie ?
Le sport est arrivé par hasard en fait, à l'école. C'est-à-dire que j'étais au collège et je faisais du sport comme tout le monde. J'étais intégré dans un lycée, collège-lycée, qui faisait la même... c'est-à-dire valide et handicapé faisaient le sport ensemble. Bien sûr, c'était adapté en fonction du handicap, toujours. Et un éducateur qui faisait cours, il a vu que sur certains sports... Par exemple, lancer le javelot, même si je n'ai pas le gabarit de lanceur de javelot, j'étais meilleur que les valides. Et en sprint, c'était pareil. Et il m'a dit...
Malgré le handicap de votre...
Voilà, malgré mon handicap. Lui, il connaissait du monde à la fédération, bien sûr. Et il les a contactés. Et puis, petit à petit, je suis arrivé au handisport.
Mais comment vous avez imaginé tout d'un coup entrer dans la cour des grands, dans le circuit des championnats internationaux, du handisport ?
Bah ça, c'est que je suis arrivé à des championnats de France en salle. À l'époque, Serge, il était encore en plein d'activité. il était au milieu de sa carrière. Et moi, j'arrivais et on se retrouvait sur les mêmes... moi, je les admirais à cette époque-là.
C'est ça. Serge, c'était le grand frère.
je ne le connaissais pas. Pour moi, c'était... c'était pas loin.
Le rôle des modèles dans le handisport, il est plus important que dans le sport
Non, je pense qu'il est important partout. Hein, le modèle, que ce soit valide ou handisport, on a tous besoin d'une référence.
Sauf que là, ces références, ces modèles, ils ne sont pas accessibles directement en touchant la télécommande de la télévision. Hein. Vous n'êtes pas inondé de modèles tous les jours en regardant les infos, c'est clair.
Non, c'est vrai, mais quand on est dans le milieu, les modèles, on les repère, on sait qu'ils sont en équipe de France, on sait qu'ils ont fait des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Et du coup, c'est des repères et ça donne envie de faire la même chose.
On est heureusement moins nombreux. Handicapés que des personnes valides. Donc, dès qu'on arrive sur un championnat de France, ces personnes qui sont des modèles sont très, très accessibles. Puisqu'il n'y a pas 15 divisions. Donc, tout le monde quasiment peut courir avec tout le monde. Et je pense que ça a été le cas de Clavel. Dès qu'il est arrivé sur un championnat de France, en salle où il n'y avait pas nécessairement de temps qualificatif, il s'est retrouvé face à ses idoles.
Il y a une bonne ambiance entre vous tous, ou bien comme dans tous les milieux, à forte compétition, ça se bouffe un peu le nez, parler familièrement.
On s'entend, dans l'ensemble, on s'entend bien, mais comme dans tous les milieux, il y a toujours des caractères différents.
Bien sûr, et puis il y a la gagne hein, quand même, voilà, parce que vous êtes aussi là pour ça, ceux qui sont encore en activité hautement sportive. Vous restez avec nous, Christophe Carayon, Clavel Cayitaré, Serge Ornem. Suite de l'émission, juste après le flash, être sportif de haut niveau et handicapé. Comment fonctionne le dépassement de soi avec un handicap ? Pour quelle reconnaissance du public ? On en rediscute dans 3 minutes.
Autour de la question. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, à l'occasion de l'ouverture des Jeux paralympiques de Rio. J'ai le plaisir d'accueillir trois athlètes, alors pour certains retraités du sport, du handisport de haut niveau, mais bel et bien avec des beaux parcours. Christophe Carion, vous êtes médaille d'or, vous avez été médaille d'or aux Jeux paralympiques de Barcelone en 92 en athlétisme et vous êtes déficient visuel. Clavel Cayitaré, ben vous continuez le sport, vous continuez
toujours,
à courir, même si là vous avez eu quelques accidents. Bah, comme beaucoup de sportifs. Hein,
oui, c'est pas parce qu'on est en handisport qu'on n'a pas des problèmes physiques comme les autres.
Vice-champion paralympique en 2004 hein, sur le 100 mètres et le 200 mètres. C'est dur là, de voir les autres déjà à Rio là, dans les starting blocks pour vous, deux, Clavel.
Là, ouais, c'est les trois mois, là, juillet, août, septembre, c'est un peu dur. Ouais.
Mais il y aura les championnats du monde bientôt.
Oui, qui auront lieu à Londres l'année prochaine, donc on se prépare.
Vous vous préparez déjà à ça. Et Serge Ornem, alors vous êtes retraité de l'athlétisme, hein, mais vous avez participé... comment ?
Retraité de l'athlétisme, mais pas du sport.
C'est ça, vous continuez le sport. Mais d'ailleurs, Christophe Carayon aussi, non ? Ou pas tellement ?
Non, il y a mon corps qui... la tête voudrait bien, mais le corps est...
Je ne suis pas.
Issu moyenne déjà.
Serge Ornem, vous avez été donc champion, vous avez participé aux championnats d'Europe d'athlétisme, champion Jeux paralympiques de Sydney, championnat du monde d'athlétisme en 2002. Alors, vous étiez en train de nous dire en première partie d'émission, c'est vrai qu'on connaît quand même assez peu, le public connaît peu les coulisses du handisport, alors que les coulisses du sport en général sont très filmées, sont très montrées. Et puis, il y a aussi pour le public un déficit de connaissances, notamment sur les catégories, parce qu'on sait qu'avec des handicaps légèrement différents, vous pouvez vous retrouver tous en compétition les uns avec les autres. Est-ce que j'explique mal ou pas, Christophe Carion ?
Non, non, vous expliquez très bien.
Par exemple, pour vous êtes déficient visuel. À l'époque où vous étiez athlète de haut niveau, comment ça se passait ?
Ça se passait comme aujourd'hui, c'est-à-dire que les catégories, il y a des classifications qui sont faites généralement par et un technicien et un médecin, où on vérifie un peu l'acuité visuelle pour ma part. On regarde après toute correction possible, lunettes, lentilles, etc. Il ne faut pas dépasser 1 sur 10. Donc 1 sur 10, c'est le gros Z et le gros U souvent qu'on a chez les ophtalmos, les deux grosses lettres.
Et donc, c'était votre cas, hein, c'est ça ? Vous voyez extrêmement flou.
Voilà. Et ensuite, il y a trois catégories chez les déficients visuels. Donc il y a les non-voyants complets. Donc ça, c'est relativement simple à comprendre. Et ensuite, il y avait une catégorie intermédiaire qui voyait un peu, qui voyait la lumière, les ombres, mais qui ne pouvait pas se diriger seul et qui donc, eux, pouvaient avoir un guide. Tout comme les non-voyants, alors que ma catégorie, on courait seul.
Ça veut dire que vous ne pouviez pas être amené, bien sûr, à courir avec des non-voyants complets, hein.
Non, parce que ça n'aurait pas été équitable. Et c'est vraiment l'idée de la classification. Et c'est pour ça qu'elle est différente suivant les sports. C'est vraiment de retrouver une équité pour que tout un chacun, avec son handicap, ait autant de chances de pouvoir gagner que...
Sur la déficience visuelle, sur le handicap de la vue, est-ce que finalement les choses sont relativement claires ? Il n'y a pas tellement de débats, contrairement notamment aux débats autour des prothèses, des problèmes de membres inférieurs, hein.
Alors, le débat en sport, il existe depuis que le sport existe, c'est la tricherie. Donc après, on peut, comme il y en a qui trichent en se dopant, comme il y en a qui essayent d'avoir du matériel qui soit plus efficace qu'une jambe, il y en a qui essayent de se faire plus malvoyant qu'ils ne sont. Et oui, il y a des débats sur les classifications.
Il y en aura toujours.
Un sport court, on a la faute à l'arbitre. Et là,
pour tous les handicaps, donc, il y a ces débats sur les classifications.
Ouais. C'est la faute au classificateur. Quand on perd, c'est l'arbitre en foot et c'est le classificateur en handisport.
On ne vous a pas mis dans la bonne classification, c'est ce que vous voulez dire en fait.
Non,
c'est le réflexe que certains mauvais perdants peuvent avoir, c'est ce que vous sous-entendez ?
C'est ce que je sous-entends, mais moi je gagnais, donc je n'étais pas mauvais perdant.
Clavel Cayitaré ?
C'est vrai que le problème existera toujours, les problèmes des prothèses... Pour les personnes amputées, il y aura toujours débat. On a eu pendant une grande période en 2012 des polémiques sur les prothèses d'une certaine personne que j'ai pas trop envie de citer aujourd'hui. Et donc il y aura toujours ce problème. Moi, aujourd'hui, je le vis, ce problème avec les prothèses. Donc,
Il faut appeler un chat. Vous courez sans prothèse.
Voilà, moi, je cours sans prothèse.
Vous avez l'usage de vos deux jambes, mais avec une jambe très, très largement endommagée.
Bah, oui. Et à côté d'eux, c'est sûr, je suis plus handicapé, même si j'ai ma jambe. Hein. Mais en sport, je suis plus handicapé qu'eux.
Vous êtes plus handicapé qu'un athlète qui court avec une prothèse de carbone, ultra-performante, etc.
C'est-à-dire l'énergie qu'il va déployer sur sa prothèse, ce n'est pas la même énergie que je vais déployer sur ma jambe.
Et vous êtes sur la même ligne de départ ?
Et on est sur la même ligne de départ. Et moi, je suis obligé de compenser aux entraînements ce manque.
Et pourquoi cela ? Pourquoi vous ne pourriez pas courir dans une catégorie à part avec d'autres athlètes qui auraient...
Le même handicap ?
Exactement.
Malheureusement.
Pas assez nombreux ?
Malheureusement. Et heureusement aussi. On n'est pas assez nombreux pour que l'on puisse nous mettre dans une autre catégorie. Et aujourd'hui aussi, il y a d'autres problèmes aussi qui font que la Fédération internationale est en train de réduire le nombre de catégories. Donc,
pourquoi cela, Christophe Carayon?
À mon époque, on avait 20-25 100 mètres. Donc il y avait 25 champions paralympiques sur 100 mètres, 25 sur 200, 25 sur 400. Alors quand vous voyez déjà ce que prend en temps les Jeux Olympiques où il y a un 100 mètres, un 200 mètres, et puis quand je dis 25, c'est hommes et femmes. Et donc ils ont essayé de resserrer ça pour avoir plus de densité dans les courses. Mais évidemment, si on resserre, il y en a qui sont en classification. Il faut être entre deux marqueurs. Et ceux qui sont au début du marqueur et ceux qui sont à la fin, évidemment, il y en a qui sont désavantagés. Et c'est toujours la limite entre faire énormément de catégories sans trop de concurrence, parce que, comme le disait Clavel, heureusement qu'on n'est pas si nombreux que ça, et faire des catégories plus grandes au détriment de certaines.
Serge Ornem, pour vous ?
À mon sens, je pense que pour certains handicaps, c'est très difficile aussi à classifier. Je prends un exemple sur mon handicap, courir.
Donc vous êtes amputé du bras gauche.
Je suis amputé du bras gauche
de naissance.
Je pense que par exemple courir contre un adversaire à qui il manque les deux membres supérieurs peut être entre guillemets beaucoup plus compliqué pour faire une performance, sachant que pour la personne qui n'a pas les deux membres supérieurs, parce que il y a déjà
donc désavantagé par rapport à vous.
Voilà, exactement, parce qu'il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de stabilité au départ. Donc je pense aussi que la classification peut parfois être très difficile.
On voit bien que la classification, c'est quand même quelque chose d'important dans votre vie d'athlète ou d'ex athlète. Je voudrais qu'on accueille en direct de Rio Gérard Masson, qui est président de la Fédération française handisport. Bonjour Gérard Masson.
Bonjour.
Vous venez d'atterrir à Rio, donc on a beaucoup de chance de vous avoir au téléphone. Alors bien sûr, il y a une polémique qui agite l'ouverture des Jeux handisport. La ville de Rio a dépensé plus que prévu pour les Jeux olympiques. Elle a puisé dans les fonds destinés à la compétition paralympique qui s'ouvre aujourd'hui, ces Jeux paralympiques ont été vraiment mis en péril. Aujourd'hui, finalement, il y a l'ouverture, ça va se dérouler. Vous êtes soulagé, amer, Gérard Masson ?
Écoutez, on est arrivé à l'instant, puisqu'on est arrivé il y a 2 heures à l'aéroport. L'aéroport avait été très organisé. On a des voitures, on a des transports. Donc, il ne faut rien dire d'autre que moi qui ai participé à plein de jeux, l'organisation est parfaite. Alors, on va attendre l'après-midi. Notre ministre fait une conférence de presse tout à l'heure, était avec nous dans l'avion, mais pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est entre l'aéroport et puis aujourd'hui le village, et bien tout me semble correct. C'est peut-être que ce n'est pas non plus exagéré.
Vous attendez quelques heures pour râler, c'est ça.
En tous les cas, ça va. Voilà. On râlera plus tard.
Ouais. Alors, il y a quelques semaines, il y a deux semaines, seulement 12% des billets étaient vendus. Bon, depuis, les ventes se sont rattrapées. Néanmoins, évidemment, les ventes de billets sont bien moindres que pour les Jeux Olympiques. Quelles disciplines, quelles épreuves ont la faveur du public traditionnellement? Et puis, comment est-ce que vous surveillez ça, la présence ou pas du public, d'un public nombreux ou pas aux Jeux Olympiques de Londres? Ça avait été un carton total. Les athlètes avaient performé, pour employer le mot anglo-saxon, à guichet fermé ou presque.
Londres a été une première exception, puisque si vous voulez, Pékin, Sydney et d'autres organisations, Atlanta où j'étais, les stades avaient les mêmes problématiques. C'est souvent lié aussi au fait que c'est après la rentrée scolaire, donc c'est parfois un petit peu plus compliqué de remplir les stades. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que si on se base sur Londres, qui avait créé pour ces Jeux une semaine paralympique pour les scolaires, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas fait ici, au Brésil. Mais écoutez, je crois qu'il faut attendre, et avant d'être négatif, essayons de dire que d'abord il y a le soleil, qu'il y a beaucoup de choses, et que tous les bénévoles que déjà on a rencontrés ce matin ont un sourire merveilleux. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on reste positif. On attendra peut-être le 20 septembre, mais pour l'instant, surtout soyons très très honnêtes. Et puis je crois qu'il faut qu'on soit modeste aussi. Ils ont fait, je crois, des choses merveilleuse. Pendant un temps, on a cru que ça allait presque s'annuler, ces Jeux. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est le côté positif d'abord.
Mais alors, justement, vous citiez cette action extrêmement symbolique et efficace en même temps des Anglais qui avaient été d'amener des scolaires, des enfants, donc la jeune génération qui va changer le regard aussi sur le handisport dans les stades. Quelles seraient à vos yeux les solutions pour que le handisport soit plus visible et pas seulement d'ailleurs au moment des Jeux paralympiques, parce qu'il y a d'autres compétitions internationales?
Ah, vous savez, c'est le regard en direction des personnes en situation de handicap, c'est le regard aussi en direction de toutes les minorités. Je pense que, je ne sais pas vous rappeler ce qui a pu se passer avec les personnes homosexuelles, avec tout un tas de choses, et de temps en temps avec les gens de couleur. J'ai envie de dire que le monde entier a une problématique avec la différence, et donc par conséquent, si souvent vous ne mesurez pas 1m95 et si vous faites 195B, on ne vous regarde pas ou on ne vous met pas dans les pages des journaux. Donc c'est aussi, pas uniquement au Brésil, je pense que...
Il y a Clavel Cayetare qui est dans le studio là et qui, évidemment, qui rigole. Hein. Clavel.
Moi, je rêve qu'on ait Paris 2024 et qu'on change le regard aussi en direction des personnes handicapées, mais en direction de beaucoup de personnes.
Oui. Clavel Cayetare.
Non, c'est la comparaison qui me fait rire.
Néanmoins, ce que vous attendez, vous, en tant qu'athlète du public, ce que vous souhaiteriez, finalement?
Ce qu'on attend du public, c'est que le public, voilà, il nous prenne aujourd'hui comme des sportifs à part entière. Moi, j'ai connu le public, trois publics différents, celui d'Athènes, celui de Pékin et celui de Londres. Pékin, il n'y avait personne dans le stade. À Athènes, pardon, il n'y avait personne dans le stade. À Pékin, c'était un public non connaisseur qui était là. Et il y avait une performance, un record du monde. Il n'y avait même pas un doigt qui bougeait pour applaudir.
Et qu'à Londres, il y avait une envie de découvrir.
Voilà. Et qu'à Londres, c'était... c'était comme dans
une ferveur, on peut
dire. Voilà, c'est comme dans un stade de foot. Et donc, c'est...
Gérard Masson, ça sera ma dernière question, parce que je pense qu'effectivement, là, maintenant, il faut que vous soyez en poste, fidèle à votre poste à Rio, où vous venez d'atterrir. Mais comment, dans le fond, passer d'un regard encore trop souvent de compassion à une véritable admiration pour la performance du corps, pour la performance de l'esprit aussi, de ces athlètes?
Ce que je crois, si vous voulez, c'est que les médias, vous et d'autres médias, il faut qu'à la fois on essaye d'éviter non plus aussi le côté extraordinaire, faire que des exploits, pour faire en sorte que les petits-enfants dans le GRC et au fin fond de la Dordogne disent nous aussi on peut aller faire du sport, parce que parfois ils ont très très peur. Je crois qu'il faut qu'on banalise sans faire en sorte que ça disparaisse. Mais un petit peu plus d'analyser le sport pour les personnes en situation de handicap, y voir les performances d'abord, avant de voir des exploits extraordinaires qui parfois, j'ai envie de dire, sont pour nous plutôt négatifs qu'autre chose.
Merci beaucoup, Gérard Masson, d'avoir été en ligne avec nous de Rio. Vous venez d'atterrir, vous êtes le président de la Fédération française handisport.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
On accueille maintenant Hubert Ripoll, qui est psychologue du sport. Bonjour Hubert Ripoll.
Bonjour.
Vous publiez « La résilience par le sport » aux éditions Odile Jacob. Vous êtes un spécialiste en neurosciences. Et pour votre livre, vous êtes allé à la rencontre. Alors, vous travaillez depuis de longues années avec des sportifs. Et là, vous êtes allé à la rencontre de 24 champions de handisport. Est-ce que vous diriez, alors vous allez parler sous le contrôle des athlètes qui sont là dans le studio ou des ex-athlètes handisport. Est-ce que la psychologie, le rôle du mental est différent pour les athlètes handicapés?
Écoutez, les athlètes handicapés sont doublement champions. Ils sont d'abord champions dans la vie, ce qui n'est pas la plus mince affaire, probablement la plus compliquée. Et ensuite, ils sont champions sur le stade. Et le fait d'être doublement champion fait qu'effectivement, il faut des qualités mentales tout à fait exceptionnelles.
Vous pensez là à des parcours qui vous ont marqué parmi ces 24 champions avec qui vous avez travaillé?
Oh, tous les parcours m'ont marqué. Quelqu'un qui a une agénésie des quatre membres, Riyad Salem, et qui se trouve actuellement à disputer au jeu une épreuve de rugby fauteuil. Bon, à qui on a dit tout jeune, écoute.
Donc il n'a ni bras ni jambes, hein, pour parler simplement aux profanes que nous sommes. Oui.
Voilà, il voulait faire du basket et on lui a dit tout jeune, mon petit, tu n'as pas de main, donc tu ne joueras pas au basket. Quelques années après, il était dans l'équipe de France de basket handisport. Bon, alors vous voyez, des parcours comme ça, j'en ai eu 24, tous aussi émouvants et surtout instructifs. Et, voilà.
Instructif à quel titre, justement, pour le psychologue du sport que vous êtes?
Écoutez, j'ai tout le temps travaillé avec de très grands champions. J'avais quelques zones d'ombre à comprendre, notamment sur la capacité à gérer le stress, la capacité à gérer les émotions, et ces champions d'e-sport m'ont appris ce que je n'avais pas pu apprendre au contact des grands champions, à savoir qu'ils ont des qualités exceptionnelles, et ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passe chez les champions valides, qui quelquefois se cassent, sont en panne, parce que précisément le mental ne suit pas.
Si je vous demandais en quelques mots, et après je vais vous laisser parce que vous allez intervenir en direct sur un autre média, Hubert Ripoll, mais de définir ce que vous appelez, vous, les spécialistes, le processus de la résilience pour ces athlètes handicapés.
Je dirais qu'au départ, il faut être bien accompagné, y compris pour ceux qui n'ont pas d'accompagnement et qui le trouvent avec des tuteurs de résilience, c'est-à-dire des gens qui leur tendent la main. Au-delà de ça, il faut avoir confiance en soi, c'est-à-dire un mélange d'estime de soi et d'image de soi, ce qui n'est pas facile parce que la société ne renvoie pas aux personnes handicapées une image qui est valorisante. Donc c'est très compliqué de se construire dans cet environnement qui est là, pour le coup, pas propice. Et ensuite, il faut quelque chose qui est une petite flamme qui va produire une déflagration gigantesque. Cette flamme, c'est la flamme de l'imaginaire. C'est une émotion qui fait que l'individu, alors que le ciel est assombri, va y voir des étoiles. Et même s'il est couché, il va se hisser jusqu'à ces étoiles, alors que nous-mêmes, valides, nous ne sommes même pas capables de penser qu'elles existent.
Merci beaucoup Hubert Ripoll d'avoir participé en direct chez 7 milliards de voisins. C'est une belle analyse et un beau mot de conclusion. On vous laisse intervenir en direct sur une chaîne de télévision. Vous êtes psychologue du sport, vous avez publié La résilience par le sport. D'ailleurs, je laisserai, pour ceux qui n'ont pas encore lu son livre, je vous le laisserai. Je parle à nos amis athlètes. La flamme de l'imagination, vous, c'était quoi la flamme de l'imagination chez les uns, chez les autres? Serge Ornem, champion d'athlétisme.
Alors, la flamme de l'imagination, moi, depuis tout petit, je suis toujours un féru de sport. Et c'est vrai que dans mon imaginaire, je me voyais quand même champion. Bon, c'était peut-être un peu prétentieux de ma part à l'époque, mais c'est vrai que, comme disait...
L'image que la société, que votre entourage, inévitablement, vous a à certains moments renvoyé, non? Sur l'impossible défi avec un seul bras.
Alors, oui, mais comme je vous ai dit, j'ai eu la chance, j'ai la chance quand même de pouvoir, au niveau sportif, dans certains sports, rivaliser avec, avec des valides. Mmh. Alors ça, ça m'a donné le courage, c'est peut-être pas le mot, mais ça m'a permis justement de me dire, je peux peut-être y arriver.
Parce que vous étiez doté de talent physique hors du commun, comme tous les grands sportifs, en fait, finalement,
commun,
à la base.
Hors du commun.
Enfin, en tout cas, largement supérieur à la moyenne,
comme
vous tous.
Tu es championne du monde, Serge, c'est que tu as des talents hors du commun.
Oui, mais bon, j'aime toujours rester modeste. Et,
on va parler pour toi.
Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Cette modestie justement m'a défavorisé, on va dire, au jeu d'Athènes, parce que effectivement je ne me mettais pas assez en avant. Je me rappelle à la veille de mon 100 mètres, hein, de ma finale de 100 mètres. Je n'arrivais pas à dormir, je me faisais la course encore et encore, tout en sachant un petit peu dans mon inconscient que je m'étais entraîné pour et que j'avais quand même les capacités d'être sur le podium. Eh bien, ça m'a un peu désavantagé et j'ai fini au pied du podium en sachant quand même que j'avais toutes les qualités requises et l'entraînement requis pour...
En ravalant vos larmes ou avec fierté ?
Les deux.
Clavel Cayitaré, vous nous parliez il y a quelques instants, première partie d'émission aussi, de cette émotion liée au problème de la classification, au fait que vous êtes en compétition avec des jeunes qui ont des prothèses, vous courez sans prothèse. Comment est-ce que vous projetez la flamme de l'imaginaire pour vous? En plus, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes arrivé en France à l'âge de 8 ans, après avoir été grièvement blessé à la jambe pendant le génocide rwandais en 1994. Donc, il y a toute cette histoire-là, dont d'ailleurs que vous ressassez très peu.
Non, c'est vrai que je parle au début de ma carrière sportive, je parlais beaucoup de mon histoire parce que bon, c'était toujours. Et petit à petit, il y a des performances qui ont pris le dessus. Aujourd'hui, ça ne me pose pas de problème de parler les deux, c'est lié. C'est l'histoire de. Si j'avais pas vécu ce génocide, j'aurais pas pu faire le sport que je fais aujourd'hui, j'aurais pas été un champion que je suis aujourd'hui. Et donc vouloir avoir la médaille chaque fois, c'est ce qui nous motive toujours d'aller chercher au fond de nous et de se faire mal, quoi. Comment on peut dire ?
Dans tous les sens du terme, oui. C'est ça. Christophe Carayon, vous, avec le recul, votre carrière de sportif déficient visuel, vous avez des regrets ? Vous avez un sentiment de chance ?
Comme tous ceux que vous interrogerez en équipe de France, un sentiment de chance. Moi, tout petit, pour parler de la flamme, là, de Hubert Ripoll, il m'a mis la chair de poule.
Parce que nous tous.
J'avais l'impression que c'était, que je revivais un peu mon enfance. Et moi, tout petit... J'avais 10 ans, je ne savais pas qu'un sport existait pour les déficients visuels. Et je me souviens que je cassais les pieds à ma mère parce que je disais un jour, je serai champion olympique. Un jour, je serai champion olympique. Et
que répondait-elle ?
Elle souriait. J'avais 10 ans, 11 ans, elle souriait. Puis quand je suis arrivé vers 15 ans, 16 ans, je faisais l'athlétisme avec des valides, donc, puisque je ne connaissais pas un handisport. Après, on va dire que la réalité a pris le dessus. Je me suis bien aperçu que je ne serai jamais champion olympique, donc j'ai enfoui ça.
Quand on voit extrêmement flou, on ne peut pas courir de la même façon ?
En tous les cas, je ne courais pas assez vite pour être champion olympique avec ceux qui y voyaient net. Mais effectivement, on a des soucis parce que quand je fais un footing dehors, je ne peux pas... Je vois pas où je mets les pieds, donc je mets le talon, et puis là, c'est le talon qui me sert d'œil. Et donc les cailloux, les trous, je me fais pas mal tant que je sais qu'il y en a, parce que le talon me sert à ça. Et en fait, après, j'ai connu par hasard à la télé, j'ai vu les Jeux Olympiques de Séoul, où ils parlaient de malvoyants, je me sentais toujours pas concerné. Et c'est à l'arrivée de la course, quand j'en ai vu deux là qui étaient à 3-4 mètres l'un de l'autre, qui se sont serrés la main, je dis mais ils y voient quand même un peu. Et donc là, je me suis renseigné. Et donc, je suis devenu handicapé à 23 ans. Même si c'est de naissance, je suis devenu handicapé à 23 ans parce que j'avais suivi une scolarité normale. Je travaillais, je courais avec les valides. Et donc, de niveau régional ou interrégional, je me suis retrouvé champion d'Europe, champion du monde, puis aux Jeux à Barcelone.
Et les médias, le public, nous tous, on a un rôle à jouer pour qu'on vous connaisse mieux en héros, même si vous n'avez pas tellement envie de cette étiquette-là.
Non, mais après... Mais qu'on
apprenne de vos performances, en tout cas.
Le public, je pense, il a beaucoup à apprendre des performances des personnes en situation de handicap. Ce que disait Hubert Ripoll tout à l'heure, lui a appris, alors que c'est un professionnel. Et il y a beaucoup à apprendre. Alors, on n'aime pas les leçons de vie, de courage, etc. Mais on s'aperçoit que tous les sportifs de haut niveau...
C'est quand même une réalité.
Tous les sportifs de haut niveau, en tous les cas, ils parlent de chance dans leur vie, alors qu'ils sont handicapés. Et ils ont toujours eu la chance de rencontrer quelqu'un, etc.
Ouais. Et l'entourage familial, on n'a pas eu le temps d'en parler, voilà. Mais qui a beaucoup compté quand même. Mais l'entourage proche, hein, bien sûr. Vous allez regarder, là, vous allez suivre les JO, les jeux, les handisports au maximum, j'imagine. Hein, vous allez revivre aussi les moments forts que vous avez vécus. Peut-être, il nous reste quelques secondes, un conseil ou un souhait pour les athlètes là, qui vont aussi vous représenter.
Qu'ils se fassent plaisir.
Serge Ornel.
Christophe, qu'ils se fassent plaisir, qu'ils aillent au bout d'eux-mêmes et pour ne pas avoir de regrets à la fin.
Et Clavel, Caïta.
Oui, qu'ils se fassent plaisir, qu'ils nous ramènent beaucoup de médailles, qu'ils nous fassent rêver comme nos collègues valides nous ont fait rêver.
Merci en tout cas à tous les trois, Christophe Carayon, Clavel Caïta et Serge Ornem. L'émission est disponible sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néron, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins, un tout autre sujet, 15 ans après le 11 septembre. Qu'est-ce que le terrorisme a changé dans nos vies? On en parlera en direct, on est toujours en direct du lundi au vendredi sur RFI. Merci à vous tous les voisins de votre fidélité. Dans quelques secondes, le journal.
RFI, la sélection du mois.